À mon sujet, on a parlé d'abnégation, d'instinct. Je n'aime pas. Mon sacrifice était déjà une telle erreur. Faut-il vraiment m'attribuer la vertu cardinale qui y conduit? Je ne vois pas en moi la moindre trace de cette disposition. Les êtres atteints d'abnégation disent avec une fierté que je trouve déplacée « Oh, moi, cela n'a pas d'importance, je ne compte pas. » Soit ils mentent, et pourquoi un mensonge aussi absurde, soit ils disent vrai, et c'est indigne. Vouloir ne pas compter, c'est de l'humilité mal placée, de la lâcheté. Tout le monde compte en une proportion si colossale qu'elle en est incalculable. Rien n'est plus important que ce que l'on prétend, infinitésimal. L'abnégation suppose le désintéressement. Je ne suis pas désintéressé puisque je suis un levier. J'aspire à la contagion. Mort ou vivant, chacun a le pouvoir de devenir levier. Il n'y a pas de puissance plus considérable. L'enfer n'existe pas. S'il y a des damnés, c'est qu'il y a des gens qui trouvent toujours le bas qui blesse. Nous avons tous rencontré au moins l'un d'entre eux. L'être perpétuellement contrarié, l'insatisfait chronique, celui qui, invité à un somptueux festin, ne verra que le mets manquant. Pourquoi seraient-ils privés de leur passion pour la plainte au moment de mourir? Ils ont bien le droit de rater leur mort. Les défunts ont aussi la possibilité de se rencontrer entre eux. J'observe qu'ils s'en abstiennent presque toujours. Si intenses qu'aient été leurs amitiés ou leurs amours, quand ils sont morts, ils n'ont plus grand-chose à se dire. Je ne sais pas pourquoi j'évoque ce phénomène à la troisième personne, car enfin, c'est valable pour moi aussi. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une autre manière d'aimer. Tout se passe comme si les morts étaient devenus des lecteurs. Le rapport qu'ils entretiennent avec l'univers s'apparente à la lecture. C'est une attention calme, patiente, un déchiffrement réfléchi. Ce qui exige la solitude. Une solitude propice à la fulgurance. D'une manière générale, les morts sont moins bêtes que les vivants. Quelle est cette lecture qui nous occupe quand nous avons trépassé? Le livre se constitue en fonction de notre désir. C'est lui qui suscite le texte. Nous sommes dans cette situation luxueuse d'être, au même instant, l'auteur et le lecteur. Un écrivain qui créerait pour son propre enchantement. Nul besoin de stylo ou de clavier lorsque l'on écrit dans le tissu de son délice. Si nous ne recherchons pas les rencontres, c'est parce qu'elles nous rappellent notre individualité de vivant, à laquelle nous ne tenons guère. En me trouvant, Judas m'a appelé par mon prénom, ce qui m'a surpris.
Tu as oublié que tu te nommais Jésus ?
Oublier n'est pas le bon verbe. Cela ne m'obsède pas. Voilà tout.
Tu ne connais pas ton bonheur. Moi, je ne pense qu'à ça. Je t'ai trahi. Je suis le méchant de ton histoire.
Si cela te déplaît, pense à autre chose.
À quoi d'autre pourrais-je penser ?
N'y a-t-il pas un lieu de plaisir dans ta pensée ?
Je ne comprends pas ta question. Je suis celui qui a trahi le Christ. Comment veux-tu que ça ne m'obsède pas ?
Si tel est ton désir, tu peux ruminer cela pour les siècles des siècles.
Tu vois, tu m'encourages à avoir des remords.
Ce n'était pas ce que j'avais dit. J'ai ressenti une curieuse émotion en m'apercevant que les malentendus survivaient à la mort. Que me reste-t-il d'avoir été un vivant nommé Jésus ? Sur leur lit d'agonie, les mourants disent souvent « si c'était à refaire ». Et ils précisent alors ce qu'ils referaient ou ce qu'ils modifieraient. Cela prouve qu'ils sont encore vivants. Quand on est mort, on n'éprouve ni approbation ni regret par rapport à ses agissements ou ses abstentions. On voit sa vie comme une œuvre d'art. Au musée, face à une toile exécutée par un maître, personne ne pense « moi, à la place du Tintoret, j'aurais plutôt procédé de telle manière ». On contemple, on prend acte, à supposer que l'on ait été un jour ce fameux Tintoret, on ne se juge pas, on admet. Je me reconnais à ce coup de pinceau. On ne se pose pas la question de savoir si cela relevait du bien ou du mal. et jamais on n'est effleuré par l'idée que l'on aurait pu procéder autrement. Même Judas. Surtout Judas. Je ne repense jamais à la crucifixion. Ce n'était pas moi. Je contemple ce qui m'a plu, ce qui me plaît. Mon tiercé gagnant fonctionne toujours. Mourir n'est plus vraiment d'actualité, mais cela valait le détour. Mourir, c'est mieux que la mort. De même qu'aimer est beaucoup mieux que l'amour. La grande différence entre mon père et moi, c'est qu'il est amour, et que moi, j'aime. Dieu dit que l'amour, c'est pour tout le monde. Moi qui aime, je vois bien qu'il est impossible d'aimer tout le monde de la même façon. C'est une question de souffle. En français, ce mot est trop facile. En grec ancien, souffle se traduit par pneuma. Admirablement trouvé, pour exprimer que respirer ne va pas de soi. Le français, langue de l'humour, n'en conservera dans la vie courante que le mot pneu. Quand on a affaire à quelqu'un qu'on ne va pas pouvoir aimer beaucoup, on dit qu'on ne peut pas le sentir. Cette impression olfactive empêche de respirer en présence de l'importun. Le coup de foudre, c'est le contraire. On a d'abord le souffle coupé, et puis on respire à l'excès. On éprouve le besoin éperdu de humer la personne dont l'odeur nous chavire. Tout mort que je suis, j'éprouve encore le vertige du souffle. L'illusion joue son rôle à la perfection. Mon seul deuil, c'est la soif. Boire me manque moins que l'élan qui l'inspire. Parmi les injures des marins, il y a « bois sans soif ». Voici une insulte que je ne risquais pas de mériter. Pour éprouver la soif, il faut être vivant. J'ai vécu si fort que je suis mort assoiffé. C'est peut-être cela, la vie éternelle.